Bonjour à toutes. Merci d'être venues aussi nombreuses. Aujourd'hui, je voudrais remercier également les organisatrices du Centre évolutif Lilith qui ont eu la bonne idée l'excellente idée de mettre au programme René Vivien. Je les en remercie. Je m'intéresse énormément à cette poétesse depuis de nombreuses années. Dans le cadre de mon travail, bien sûr, c'est pas très facile à faire puisque ça demande beaucoup de temps. Et je vais centrer le propos le parcours poétique de René Vivien, étant donné que c'est une personnalité tellement riche et à évoquer que l'espace d'une petite conférence n'y suffirait pas. Je remercie Jacqueline Julien qui est à mes côtés et qui a bien voulu accepter amicalement de prêter sa voix pour interpréter les poèmes de René Vivien. Et bon, on ne présente pas Jacqueline Julien, je pense qu'elle est très connue de nous, parmi nous. Et elle est réalisatrice de films et puis de bien d'autres choses. Elle a beaucoup de cordes à son arc. Bon, sans plus attendre, nous allons débuter par une introduction musicale qui est extraite d'Une femme m'a paru.
Vertigineusement, j'allais vers les étoiles. Mon orgueil savourait le triomphe des dieux et mon vol déchirait, nuptial et joyeux, les ténèbres d'été comme de légers voiles. Dans un fuyant baiser d'hymen, je fus l'amant de la nuit aux cheveux mêlés de violettes et les fleurs du tabac m'ouvraient leurs cassolettes d'ivoire où tiédissait un souvenir dormant. Et je voyais plus haut la divine Pléiade. Je montais, j'atteignais le silence éternel lorsque je me brisais comme un fauve arc-en-ciel, jetant des lueurs d'or et d'onyx et de jade. J'étais l'éclair éteint et le rêve détruit, ayant connu l'ardeur et l'effort de la lutte, la victoire et l'effroi monstrueux de la chute. J'étais l'astre tombé qui sombre dans la nuit.
Les vers de René Vivien que nous venons d'entendre traduisent l'élan d'une ambition glorieuse, entremêlée du sombre pressentiment que son œuvre sera couronnée de gloire ou vouée à l'échec. Ce poème visionnaire, publié dès 1903, décrit une trajectoire fulgurante de météores qui effectivement se confond de manière prémonitoire avec la courbe de son destin poétique entre lumière et ténèbres. René Vivien a toujours eu des admirateurs éclairés. Parmi les lettrés, son talent fait l'unanimité et la distingue des autres poétesses de la Belle Époque. Aujourd'hui, elle est encore trop souvent méconnue et son auditoire demeure circonscrit à un cénacle. Pourquoi un tel ostracisme? Parce que tout est plus difficile quand on est une femme, parce que l'homosexualité fait peur à beaucoup, même si elle les fascine, parce que le roman a pris le pas sur la poésie, certes, mais cela n'explique pas tout. Car en 1900, la littérature lesbienne est en vogue à Paris, en particulier dans la haute société. Pour ne citer que les plus célèbres, Colette, Lucie de la rue Mardru, Nathalie Barnet, Liane de Pougy. Cependant, cette littérature reste une chasse gardée masculine. Ce n'est pas Colette qui signe les Claudines, mais c'est son époux, le célèbre Willy. Lucie de la rue Mardru cache son saphisme, qu'elle pratique pourtant allègrement avec Nathalie Barnet. Et même Nathalie Barnet, qui publie 5 petits dialogues grecs, le signe du pseudonyme de Tréphée. Quant au best-seller de Liane de Pougy, L'idylle saphique, il est d'un moralisme déconcertant. Mais revenons au cas de René Vivien. Bien qu'appartenant à un milieu très aisé, c'est une rentière, elle vit de ses rentes, elle ne dispose cependant pas de la même surface sociale que ses dames, qui sont toutes très protégées de personnalités les plus en vue du monde littéraire. Lucie de la rue Mardru, par exemple, a épousé un grand orientaliste très répandu, le docteur Mardru, qui est le traducteur des Mille et Une Nuits. Liane de Pougy est une des reines de Paris, qu'on appelle le passage des princes, donc elle a vraiment des appuis très, très importants. Quant à Nathalie Barnet, c'est une Américaine très fortunée, elle possède une des plus grandes fortunes des États-Unis et elle tient un salon qu'elle tiendra pendant très longtemps, jusque pratiquement vers les années 1960-1970, pendant très longtemps, jusqu'à la fin de sa vie. On pourrait en citer d'autres, mais ce serait quand même beaucoup trop long, donc on va revenir sur René Vivien. René Vivien côtoie ce beau monde, mais elle n'aime pas la lumière vive, ni l'effervescence mondaine. Elle préfère l'ombre et la solitude de son appartement de l'avenue Dubois, aujourd'hui avenue Foch. Mais la raison fondamentale qui fait à la fois son succès et sa mise à l'écart est bien évidemment qu'elle est la seule à chanter ouvertement et exclusivement l'amour des femmes. Elle est Sappho 1900 et a-t-on dit Sappho 100%. Avec René Vivien, la critique a affaire à forte partie. La critique sait qu'elle se trouve en face d'un poète et d'un chef-d'œuvre inévitable et qui va l'embarrasser. La manœuvre sournoise va donc consister à faire de René Vivien un personnage presque irréel, à coups de clichés anémiants, en ne parlant d'elle que de manière très anecdotique, afin d'occulter le plus possible cette œuvre qui fascine et qui dérange. Se sont superposées, au gré des temps, des images de légende, tantôt mièvres, de museaux violettes, tantôt sulfureuses, de femmes damnées, tantôt carrément outrageantes, d'alcooliques et de névrosées. Mais je ne pense pas que ces deux dernières tares aient porté le moindre préjudice à Verlaine ou à Rimbaud. L'institution littéraire, et en partie liée avec le pouvoir, ne s'embarrasse pas de René Vivien. Et la République des Lettres s'efforce de maintenir ce génie dans l'ombre, sans le moindre état d'âme. Dans les anthologies, comme dans l'histoire de la littérature, elle est rangée, mise à la place des anges. On enlève le R, rangée, mise à la place des anges. Dans le char national et pomponné des poétesses de la Belle Époque. Et le tour est joué. On en parle sans en parler. Avez-vous déjà vu un des poèmes de René Vivien dans un livre scolaire? La plupart des libraires ignorent jusqu'à son nom, où l'on repérait phonétiquement comme étant un homme. On est loin, très loin, des honneurs de la Pléiade. Tandis que, enfin, je fais une petite aparté, aussi bien Colette qu'Anna de Noailles ont été respectivement officiers de la Légion d'honneur et commandeurs de la Légion d'honneur. Voilà. Le plus regrettable dans tout ça est que la littérature soit privée d'un aussi beau fleuron. Cependant, l'université daigne l'accueillir depuis quelque temps dans ses travaux, mémoires, thèses, études critiques. Elle a aussi ses entrées en biographie. Et malgré les rééditions de ses œuvres complètes depuis 1923 et jusqu'à aujourd'hui, en 2009, les éditions Erosonix ont republié l'intégralité des poèmes de René Vivien. Rien n'a vraiment réussi à donner à cette poésie la place éminente qu'elle mérite. L'œuvre est pourtant conséquente. 12 livres de poèmes ciselés sans une négligence, auxquels s'ajoutent des œuvres en prose, des contes, des nouvelles, des romans. Voilà une écrivaine prolifique qui ne transige pas avec le réel. Sa vie et ses idées sont intimement mêlées à ses écrits, si bien que, pour la connaître intimement, il n'est que de la lire et surtout d'éviter les biographes. Elle a une vocation précoce. J'ai une œuvre à faire et je la ferai. C'est Pauline Tarn qui parle. Elle est à peine âgée de 16 ans. Et elle affirmait déjà sa vocation dans son journal de jeunesse intitulé « Ma vie et mes idées ». Et en parcourant ce journal, on y rencontre déjà Sappho et les Kithérèdes. Et l'ambition de coiffer la même couronne que les poétesses de l'Antiquité. Il faut un début à tout. Elle ira plus loin. Car elle est servie par une nature impétueuse et fière. Sa détermination apparaît déjà avec une étonnante maturité. On peut dire que René Vivien est prévisible et déjà visible dans la jeune Pauline Tarn. Laissons un peu s'exprimer l'adolescente. J'ai, dit-elle, des idées très avancées qu'on appelle des idées dangereuses. Vouloir me persuader de ne pas faire une chose, c'est me pousser à la faire tout de suite. Et un peu plus tard, avec quel aplomb elle répond à la lettre d'un ami et poète, quinquagénaire, qui lui prédit le mariage. Que diable allez-vous me parler de mariage et de m'annoncer avec une confiance qui touche à l'insulte qu'avant 21 ans, je serai mariée. Vous avez complètement perdu la tête, mon cher ami. Amour, mariage, tout ça, c'est bon pour les gens qui n'ont rien à faire ou pour ceux qui méritent quelques châtiments. Vous croyez que l'unique but de la femme, c'est d'aimer un homme, la malheureuse? Aujourd'hui, les femmes ont autre chose à faire que d'aimer et de se marier. Moi qui adore la liberté, je ne la sacrifierai pas pour un esclavage. La jeune fille se sent si outragée. Non, là, je vais le passer, parce que c'est pas... Elle sait qu'elle doit être armée pour affronter un monde qui, dit-elle, a toujours été dur aux femmes. Et en bonne féministe, Pauline s'était forgée cette formule. Le savoir, c'est le pouvoir. L'ignorance, c'est l'impuissance. Elle a déjà acquis à 16 ans une culture remarquable et possède une connaissance parfaite du français et des littératures françaises et anglaises. Elle apprend aussi l'italien, pour traduire Dante. Et elle souhaite aussi apprendre le grec, pour un jour traduire Sappho. Toutes les légendes la passionnent, celles des pays nordiques, comme celles du Sud. En revanche, elle déteste Londres et les Anglais, et toutes les contraintes familiales, et aussi la grande hypocrisie des institutions religieuses. Elle attend avec impatience le jour de sa majorité, où enfin elle pourra échapper à tous ces carcans et rejoindre son cher Paris. Ce Paris, synonyme de liberté, de libre expression des idées et des mœurs, capitale des arts et des lettres et de la vie mondaine. Dans le Paris aristocratique et bourgeois qui est celui dans lequel René Vivien évolue, le conservatisme, le dispute à l'avant-garde et les chausses trappes ne manquent pas. Paris 1900 foisonne d'artistes et d'Amazones, de divertissements élitistes et décadents. Le sapphisme en est un. La littérature lesbienne se vend bien. 1899. Voilà Pauline, enfin, à Paris, après un séjour confiné à Londres qu'elle avait fait depuis l'âge de 13 ans, lorsqu'elle avait perdu son père. Ses tuteurs avaient été obligés, elle avait forcé à rejoindre Londres avec sa famille. Et elle en avait énormément souffert. Mais enfin, la voilà à Paris. Et d'abord, quel effet, quelle impression produit-elle dans la bonne société de la belle époque? Et d'abord sur sa future inspiratrice, son initiatrice, celle qui lui intime l'ordre de sa destinée, dira-t-elle, Nathalie Barnet. Nathalie Barnet se souvient très bien de leur première rencontre dans ses Souvenirs indiscrets, publiés en 1960. Elle s'exprime ainsi. Je devais faire sa connaissance en allant à une matinée aux Français. La jeune fille, à première vue, me parut charmante, mais trop banale pour retenir mon attention. Voici comment elle apparut à mes rencontres suivantes. Un corps mince, avec une charmante tête aux cheveux plats, couleur souris, aux yeux bruns, souvent pétillants de gaieté. Mais lorsque ses belles paupières bistrées se baissaient, elle révélait plus que son regard, l'âme et la mélancolie du poète que je cherchais en elle. Elle avait un sens de l'humour facile à ranimer et une drôlerie enfantine qui, tout d'un coup, lui enlevait la moitié de ses 20 ans. Colette se souvient aussi, dans ses plaisirs, qu'on appellera aussi plus tard le pur et l'impur, publié en 1932, Elle se souvient d'une silhouette sympathique et attachante. Blonde, la joue frappée de fossettes, une tendre bouche rieuse et de grands yeux doux, couleur de châtaigne, luisaient de gaieté, de malice au besoin. Ses robes couvraient ses pieds et elle marchait frappée d'une gaucherie gracieuse en laissant tomber ses gants, son ombrelle, en accrochant ou perdant son écharpe. Je n'ai jamais vu René Vivien triste. Vous voyez comme ça change des images que l'on a répandues sur elle. Et dans le monde, lieu qu'elle n'aimait pas, mais où elle exerçait cependant une réelle fascination. Dans un article paru dans le Mercure de France en 1953, Louise Faure-Favier, qui deviendra une relation amicale, a gardé ce souvenir précis et admiratif d'une soirée dans le monde où, dit-elle, elle vint un soir, et cette fois très élégante et très parée, pour entendre Georgette Leblanc parler de Péléas et Mélisande. Un long collier de lalique sur sa robe blanche, un peu de fard à ses joues, René Vivien séduisit tous les jeunes poètes qui l'entouraient. Elle laissa à tous un souvenir enchanté. Cette fois, elle ne fila pas à l'anglaise. Ce fut à qui l'accompagnerait à sa voiture. Toutes les dames trouvèrent René Vivien ravissante. La voici maintenant à pied d'œuvre. Elle sait qu'elle ne pourra compter que sur son talent. Le seul guide qu'elle aura dans les milieux littéraires et de l'édition est un jeune helléniste agrégé de lettres. Il se nomme Jean-Charles Brun, mais elle préfère malicieusement l'appeler Suzanne, par jeu, autant que par réelle complicité, comme si un serviteur masculin à ses côtés ne pouvait exister que féminisé. Il deviendra vite un ami utile et un confident discret. La voilà songeuse à l'idée de lancer son premier livre. « Oui, j'ai une folle envie, dit-elle, de jeter mon livre, petit voilier frêle sur le grand océan, le voir naufrager ou arriver triomphalement au port. Pourra-t-il survivre ?» 1901, c'est le départ. Année même de la parution des œuvres de ses grandes rivales, Anna de Noailles, qui publie cette année-là « Le cœur innombrable », Lucie de la rue Mardru, Occident, Écolette, Claudine à Paris. Elles se sont toutes donné rendez-vous au même moment. Elle risque 330 exemplaires de son premier recueil, Études et Préludes. Il est publié évidemment à compte d'auteur. Chez l'éditeur des Parnassiens, Alphonse Lemaire. L'inspiratrice est Nathalie Barnet. Elle est aussi la dédicataire anonyme. Le recueil est signé R. Vivien. La carte qui accompagne les exemplaires destinés à la presse est libellée René et Vivien au masculin. Crainte du scandale ? Peut-être. Mais aussi malicieux pragmatisme. D'abord, voir l'accueil fait objectivement par les critiques sur la valeur de ses poèmes ne se dévoiler qu'ensuite. Enfin, autrement dit, elle veut les piéger. Pour l'heure, n'étant pas perçu comme un recueil saphique, l'ouvrage est bien accueilli. La critique est sensible à cette poésie lyrique de forme classique et à la rigueur toute parnassienne des poèmes qui célèbrent la femme aimée. Quoique certains sont perplexes sur le sexe de l'auteur. Et il est dit « Le vers est solide, bien fait, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un homme. » Mais la caresse semble ambiguë.
Alors écoutez. L'ombre jetait vers toi des effluves d'angoisse. Le silence devint amoureux et troublant. J'entendis un soupir de pétales qu'on froisse. Puis, lisse entre les lisses, m'apparut ton corps blanc. J'eus soudain le mépris de ma lèvre grossière. Mon âme fit ce rêve attendri de peser sur ta grâce, où longtemps s'attardait la lumière, le souffle frissonnant d'un mystique baiser. Dédaignant l'univers que le désir enchaîne, tu gardas froidement ton sourire immortel, car la beauté demeure étrange et surhumaine, et veut l'éloignement splendide de l'autel. Éparse autour de toi pleurait la tubéreuse. Tes seins se dressaient, fiers de leur virginité. Dans mes regards brûlait l'extase douloureuse qui nous étreint au seuil de la divinité.
L'année suivante, un pas de plus est franchi par René Vivien et le recueil « Cendres et poussières » s'ouvre par une invocation à Sappho. Et les références à la haie de Lesbos sont plus nombreuses que dans le recueil précédent. Vivien continue cependant de maintenir l'ambiguïté sur son identité, assignant à nouveau ce recueil R. Vivien. Remarquez qu'en mettant R. Vivien, elle ne dit pas non plus qu'elle n'est pas une femme. Elle le laisse en suspens. La dédicace est adressée à une autre femme, à son amie Achel Sébé. Achel Sébé, c'est Hélène, Louise, Caroline, Betty, née Rothschild, épouse du baron de Zuylen, mère de deux garçons, femme énergique, forte au moral et au physique, très différente de Vivien, moderne. Elle fait même des rallyes automobiles. Elle habite aussi l'avenue du Bois, pas loin de Vivien, ce qui est pratique. Bien que Vivien apprécie le climat de quiétude sentimentale auprès de sa nouvelle amie, l'inspiratrice du recueil n'en demeure pas moins Nathalie Barnet. Mais le ton a changé, et elle donne cette fois libre cours au désenchantement en termes carrément accusateurs.
Tendre à qui te lapide et mortel à qui t'aime, tu fais de l'attitude un règne de poème. Ô femme dont la grâce enfantine et suprême triomphe dans la fange et les pleurs et le sang, tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse. Pardon. Tu n'aimes que la main qui meurtrit ta faiblesse, la parole qui trompe et le baiser qui blesse, l'antique préjugé qui ment avec noblesse et le désir d'un jour qui sourit en passant. Férocité passive, hypocritement douce, pour t'attirer, il faut que le geste repousse. Ta chair inerte appelle en râlant la secousse. Tu n'as que le respect du geste triomphant. Esclave du hasard, des choses et de l'heure, être ondoyant, qui rien de vrai ne demeure, tu n'accueilles jamais la passion qui pleure, ni l'amour qui languit sous ton regard d'enfant. Le baume du banal et le phare du factice, créature d'un jour, contente ton caprice, et ton corps se dérobe entre les mains et glisse. Jamais tu n'entendis le cri du désespoir. Jamais tu ne compris la gravité d'un songe, d'un reflet dont le charme expirant se prolonge, d'un écho dans lequel le souvenir se plonge. Jamais tu ne pâlis à l'approche du soir.
En janvier 1903, paraît Évocation. C'est un de ses recueils préférés. Elle le fera d'ailleurs rééditer 2 ans plus tard avec un tirage conséquent de 2500 exemplaires, car elle souhaite lui donner une audience plus large. Sans doute parce que Sappho y est beaucoup plus largement évoquée, en compagnie de ses amies poétesses, cela va sans dire. Elle évoque plus particulièrement l'une d'elles, Attis, l'amie préférée et inconstante de Sappho. On voit le parallèle avec Nathalie Barnet. Et dans un poème éponyme, elle signale clairement un vers nostalgique de Sappho qu'elle met en exergue, comme une réminiscence. « Je t'aimais, Attis, autrefois. » Le message à Nathalie Barnet ne saurait être plus limpide. Et par cette évocation, Vivien établit nettement une correspondance et une similitude directe entre elle et Sappho. 2 ans plus tard, elle se rendra à Mytilène en compagnie de Nathalie Barnet. Et le recueil s'ouvre sur cette invitation solennelle au voyage.
Sœur de mes chants, allons vers Mytilène. Voici que mon âme a repris son essor, nocturne et craintive, ainsi qu'une phalène aux prunelles d'or. Allons vers l'accueil des vierges adorées. Nos yeux connaîtront les larmes des retours. Nous verrons enfin s'éloigner les contrées d'éternes amours. L'ombre de Psapha, tissant les violettes et portant au front de fébriles pâleurs, sourira là-bas de ses lèvres muettes, lasses de douleur. Là-bas gémira Gorgo, la délaissée. Là-bas fleuriront les paupières d'Attis, qui garde en sa chair savamment caressée l'ardeur de jadis. Elles chanteront les grâces solennelles, les sandales d'or de l'aube au frais miroir, les roses d'une heure et les mers éternelles, l'étoile du soir. Nous nous verrons Timas, la Vierge tant pleurée, qui ne subit point les tourments de l'Héros. Et nous redirons à la terre enivrée l'hymne de Lesbos.
Les critiques sont admiratifs et prodiguent leurs éloges. Ils apprécient ces hymnes antiques et païens dans la mesure où ils s'intègrent bien dans le climat de l'époque, propice à un retour du néoclassicisme comme à la montée de l'anticléricalisme qui fleurit en cette année 1904, proche de la séparation de l'Église de l'État. C'est tout un climat qui... Et même lorsque bientôt Vivien dévoilera totalement son identité sexuelle, l'unanimité se fera sur la qualité et l'absolue sincérité de cette poésie. Écoutons-les plutôt, ces critiques. Et d'abord, quelqu'un d'extrême droite, Charles Maurras, qui est à l'époque le critique le plus influent et aussi le moins suspect de sympathie envers les thèmes qu'elle déploie. C'est lui qui signalera aux lettrés l'importance de René Vivien dans un livre intitulé « L'avenir de l'intelligence » qu'il fera paraître en 1905. Il la reconnaît volontiers comme supérieure à Baudelaire. C'est pas peu dire. Hein ? Mais avec une restriction dont, cependant, elle ne saurait être évidemment que la fille. Un autre critique, Jean de Gourmont, qui écrit au Mercure de France, apprécie quant à lui la belle sincérité qui s'exprime dans ses vers. Et même le très chrétien Roger Lebrun consentira à la placer où ? Ben, rien moins qu'auprès du Seigneur pour l'éternelle béatitude. Quant au sympathique Jean-Ernest Charles, qui est un juriste et fondateur des Samedis littéraires, et qui sera aussi un ami de Vivien, il fréquentera beaucoup son appartement. Il déborde d'enthousiasme devant ses vers cadencés, nuancés, jamais alourdis d'épithètes vaines. Qui refusera, dites-le, d'admirer cette poésie fiévreuse où frissonne le génie? Alors que chez tant de poètes, la poésie n'est que de la rhétorique. Ici, c'est de la vie, et quelle vie! Elle est au zénith. Dans ce contexte encourageant, Vivien va franchir un pas de plus. Et en mars de cette même année 1903, elle va faire paraître un volume intitulé « Sappho, traduction nouvelle avec le texte grec ». Il est à noter que c'est à partir de ce recueil sur Sappho que Vivien dévoile son identité en signant cette fois René E. Vivien au féminin. Et elle veut souligner l'importance qu'elle entend accorder désormais à ses livres en les faisant illustrer par le peintre Lucien Lévy-Durmer, dont le style symboliste et pré-raphaélite est en parfaite harmonie avec sa poésie. Signalons que ce peintre fera également deux portraits au pastel de la poétesse, l'un en pied, l'autre en buste. On ne sait pas où ils sont aujourd'hui, on ne sait pas qui les a. Voilà. Cette étape marque bien le zénith de la création littéraire de René Vivien. L'ode à une femme aimée, écrite par Sappho, que nous allons entendre, a été maintes fois traduite au cours des temps par les meilleurs hellénistes, mais jamais avec autant de maîtrise et de grâce que par René Vivien. Elle est devenue virtuose de la strophe saphique. Elle manie avec une aisance qui ferait pâlir Verlaine lui-même, pourtant considéré comme un maître du périlleux endécasyllabe. L'endécasyllabe, c'est ce fameux vers de 11 pieds, très difficile à maîtriser. René Vivien se distingue en faisant ce que jamais aucun helléniste distingué n'est parvenu à faire aussi bien, transcrire la fluidité et la musicalité non seulement des vers de Sappho, mais du dialecte dorien de la Grèce ancienne. Écoutons-la.
Dis donc, lire Sappho, c'est impressionnant. L'homme fortuné qu'énivre ta présence me semble l'égal des dieux, car il entend ruisseler ton rire et rêver ton silence. Et moi, sanglotant, je frissonne toute, et ma langue est brisée. Subtile, une flamme a traversé ma chair, et ma sueur coule ainsi que la rosée âpre de la mer. Un bourdonnement rempli de bruit d'orage mes oreilles, car je sombre sous l'effort, plus pâle que l'herbe, et je vois ton visage à travers la mort.
Vivien a mené là un gigantesque travail de traduction de ce qu'il subsistait des fragments des poésies de Sappho. Ce travail d'érudition, de philologie, on peut dire, que l'on doit saluer, ne s'arrête pas là. Elle le prolonge en restaurant toutes les strophes mutilées, comme on restaure un édifice essentiel. Son but est de rétablir l'authenticité originelle lesbienne des fragments que depuis la Renaissance, tous les traducteurs orientés dans un sens au mieux bisexuel. Elle effectuera l'année suivante un travail similaire sur les fragments poétiques des autres grandes poétesses de l'Antiquité dans le recueil intitulé « Les Kithareds ». Cet objectif lui tient tellement à cœur que l'année de sa mort, en 1909, elle réunira dans un même recueil intitulé « Sappho et 8 poétesses grecques », un recueil qu'elle fera tirer à 2500 exemplaires, ce qui est conséquent pour l'époque. C'est un travail gigantesque de pionnière qui fait de la poétesse grecque sa référence identificatoire à 2500 ans de distance. Mais revenons à 1904, année capitale dans l'affirmation de son génie. 1904, c'est une année de grande opulence créatrice pour Vivien. Le recueil de nouvelles, La Dame à la Louve, et un important roman, Lettre double, ainsi qu'un volume de contes japonisants, Netsuke, signé Paul Riversdale. C'est vrai que Vivien n'a pas eu qu'un seul pseudonyme, elle en a eu plusieurs, elle a eu aussi celui de Paul Riversdale, et nombre d'œuvres écrites par son amie Hélène de Zuylen ont été faites en collaboration, et la majeure partie de la rédaction en revient bien souvent à Vivien. Cependant, surtout, deux œuvres qualifiées de sulfureuses vont venir déconcerter fortement la critique. Il s'agit de La Vénus des aveugles et du roman Une femme m'a paru. Dans ce roman symboliste et autobiographique, Vivien justifie notamment la dualité de l'être androgyne. Malmenée par les codes sociaux et les conventions morales, elle dénonce avec force les fausses valeurs de la morale patriarcale. La critique entend alors raisonner autre chose que cet hellénisme saphique qui semblait suffisamment anachronique et lointain pour être assez rassurant. Les œuvres de René Vivien leur paraissent nettement plus subversives, plus lesbiennes que saphiques. Écoutons cette litanie de la Vénus des aveugles.
La haine nous unit, plus forte que l'amour. Nous haïssons le rire et le rythme du jour, le regard du printemps au néfaste retour. Nous haïssons la face agressive des mâles. Nos cœurs ont recueilli les regrets et les râles des femmes au front lourd, des femmes au front pâle. Nous haïssons le rut qui souille le désir. Nous jetons l'anathème à l'immonde soupir d'où naîtront les douleurs des êtres à venir. Nous haïssons la foule et les lois et le monde. Comme une voix de fauve à la rumeur profonde, notre rébellion se répercute et gronde. Amante sans amant, épouse sans époux, le souffle ténébreux de Lilith est en nous, et le baiser d'Eblis nous fut terrible et doux. Plus belle que l'amour, la haine est ma maîtresse, et je convoite en toi la cruelle prêtresse, dont mes lividités aiguiseront l'ivresse. Mêlant l'or des genêts à la nuit des iris, nous renierons les pleurs mystiques de jadis et l'explation des cierges et des lys. Je ne frapperai plus aux somnolentes portes. Les auteurs monteront vers moi, sombres et fortes, avec le souvenir diaphane des mortes.